Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Madame Beauchamp, Monsieur Gilles, on va parler de COVID. Parce que, bon, si vous n'êtes pas dans une grotte présentement, là, si vous êtes dans la société, vous le voyez, vous le constatez autour de vous. Il y a plein de gens qui ont des diagnostics positifs de COVID. Donc, on sait qu'il y a une montée. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de gens sont touchés parce qu'il n'y a plus de dépistage systématique des cas de COVID. Les gens font des autotests, oui, c'est une chose. Après ça, choisissent de façon responsable de s'isoler. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il y a un dépistage et il y a un décompte aussi qui est systématique. Et là, selon le groupe de recherche Cyrano, ben, le nombre d'infections au Québec aurait varié la semaine passée entre 24 000 et 32 000 nouveaux cas par jour. Et ça, ben, ça frappe l'imaginaire, sauf que le nombre de personnes hospitalisées augmente, mais n'explose pas. Par exemple, les soins intensifs, il y a 62 personnes aux soins intensifs. On va parler avec Roxane Borges da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, également membre de ce groupe de recherche Cyrano, là, qui sont d'un échantillon représentatif de 3000 personnes chaque semaine. Docteur da Silva, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Ça frappe l'imagination, là, entre 24 000 et 32 000 nouveaux cas par jour la semaine dernière. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas d'explosion pour l'instant dans les soins intensifs.
Non, tout à fait. Et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans la situation en Europe, c'est qu'eux qui sont toujours en avance sur nous, les chanceux, si je peux dire, en fait, ou c'est nous qui sommes chanceux, en fait, de pouvoir bénéficier de leur expérience. On voit que les personnes qui sont bien vaccinées, donc qui ont une troisième dose, en fait avec une bonne couverture vaccinale à trois doses, les personnes vont beaucoup moins développer des symptômes graves et c'est plutôt les hospitalisations qui augmentent, mais pas forcément les soins intensifs.
Donc ça, en fait, on s'entend, là, les soins intensifs, c'est le canari dans la mine. Si les soins intensifs se mettent à exploser, on sait qu'on est dans le pétrin et qu'on va sans doute devoir, disons, resserrer les mesures sanitaires.
Ben, pas forcément, parce qu'il faut quand même se rappeler que si on a trop de travailleurs de la santé absents pour congé, pour COVID, si je peux dire, on pourrait se retrouver dans une situation vulnérable dans les hôpitaux, également dans les autres services que les soins intensifs. Donc, il faut quand même y aller avec précaution, prudence et surtout, en tout cas, appliquer tous les gestes pour éviter d'attraper la COVID.
OK. On a appris là, que le pic d'excrétion du sous-variant BA.2 survient 4 à 5 jours après les symptômes. Est-ce que ça, c'est, disons, similaire aux autres variants et sous-variants?
Mais il semble que ce soit un peu différent, notamment avec les premiers variants. Ça pouvait arriver beaucoup plus vite. Dès le début des symptômes, la charge virale était très élevée. Là, les premières études commencent à nous dire que peut-être qu'il faut attendre, qu'il semble que ce soit plutôt après 3-4 jours de symptômes qu'on commence, que la charge virale est vraiment élevée. Dans tous les cas, au moindre symptôme, il vaut mieux s'isoler pour éviter de contaminer son entourage.
OK. Là, on voit une montée. Là, j'en ai parlé cette semaine, docteur da Silva. Dans mon entourage et les gens me racontaient les mêmes histoires, il y a plusieurs personnes chaque jour qui se déclaraient positives comme ça. Là. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut penser que quand il y a une flambée semblable, là, ça va aussi à un moment donné redescendre rapidement?
Ça, c'est difficile à dire. C'est sûr que si le variant contamine énormément de personnes d'un coup, parce qu'il est très... En fait, le variant circule beaucoup, il est très contagieux, donc il a la capacité de contaminer beaucoup de personnes très rapidement. Est-ce qu'on va redescendre aussi rapidement? C'est difficile à dire, mais les modèles semblent indiquer que on pourrait, en effet, ça pourrait aller beaucoup plus vite que certaines autres vagues. mais il va falloir attendre pour le savoir. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que avec le nombre de cas qu'on estime, même si très peu de personnes se retrouvent à l'hôpital, c'est-à-dire un faible pourcentage se retrouve à l'hôpital, même si c'est 0,01% des gens qui se retrouvent à l'hôpital, sur 23 à 32 000 cas, ça va faire quand même beaucoup de monde hospitalisé.
Oui, évidemment, mais présentement, c'est pas ce qu'on constate.
Non, mais on sait qu'il y a un décalage entre les cas et les hospitalisations. Donc, on se rappelle aussi que l'INES a prévu dans ses modèles qu'on arriverait peut-être à 200 hospitalisations par jour d'ici 2 semaines. Donc, il faut faire très attention.
À quel moment est-ce que vous allez commencer à être inquiète?
Ben, je dirais que je le suis déjà. En fait, je suis plutôt préoccupée par les régions qui sont moins pourvues en ressources hospitalières et qui expérimentent la plus grosse croissance de cas actuellement. Je parle notamment dans le nord et dans l'est du Québec, et on le voit dans nos données, l'étude du Cyrano. Et c'est sûr que si on a beaucoup d'attentisme au travail dans des régions comme ça qui ont peu d'hôpitaux, je parlais parmi les travailleurs de la santé, on risque de mettre les hôpitaux dans une situation vulnérable dans ces régions-là.
OK. Et on sait que le gouvernement là, a desserré les mesures sanitaires. On est revenu presque à une situation, on va mettre en guillemets, normale. Le masque doit être largué le 15 avril. Est-ce que vous pensez qu'on devrait attendre un peu? Et si oui, pourquoi?
C'est sûr qu'il faudrait attendre un peu parce qu'on sera, il faudrait vraiment pas enlever le masque à un moment où on est en pleine vague de COVID-19. Le masque est une mesure peu contraignante, ancrée dans les pratiques sociales et très, très efficace. Le masque et la vaccination sont nos deux outils sur lesquels il faut qu'on travaille très fort. Et donc, le masque ne devrait pas être enlevé tant qu'on n'est pas redescendu, mais qu'on n'est pas clairement dans le bas de la vague. Parce que l'enlever signifie que ça va être très difficile de le ramener et on ne veut pas ça.
OK, vous êtes une spécialiste de santé publique. On avait promis aux gens qu'on pourrait l'enlever le 15 avril. Est-ce que les gens, puis je le sais là, que c'est un concept qui est un peu flou, là, est-ce que les gens vont accepter de repousser ça de quelques jours, quelques semaines?
Mais on pourrait poser la question autrement. Est-ce que les gens vont accepter? En fait, est-ce que les gens sont prêts à enlever le masque et de savoir qu'en enlevant le masque, certaines personnes risquent d'en avoir des séjours à l'hôpital et peut-être même d'en décéder. Mais je pense que au nom du bien collectif, on peut faire cet effort supplémentaire avec le masque qui est peu contraignant finalement puisqu'on le porte uniquement dans les espaces clos et qui va permettre de sauver des vies pour cette 6e vague.
Ce que vous dites là, ça tombe sous le sens, mais est-ce que vous pensez que collectivement, on est encore prêt à entendre ce message-là? Il y a quand même un ras-le-bol.
Je suis bien d'accord avec vous, mais il faut faire un dernier effort avant que les beaux jours s'en viennent pour essayer de sauver des vies par rapport à cette 6e vague.
Merci beaucoup. Bon week-end, professeur Da Silva.
Merci beaucoup. Au revoir.
Salut, c'était Roxane Borges Da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le 4 septembre 2012, il y a un événement historique qui s'est produit au Québec. Pour la première fois, une femme, Mme Pauline Marois, a été élue au poste de première ministre du Québec. C'était un moment historique, c'était une avancée importante. Le Parti québécois revenait au pouvoir la première fois depuis 2003. Et c'est au Métropolis, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, qu'on avait choisi au PQ de célébrer cette victoire-là. Et là, il y a un homme, un désaxé, qui s'appelle Richard Henry Bain, qui a bousillé cette soirée-là. Il s'est attaqué au Métropolis et on le sait, il a d'abord mis le feu près de la porte arrière du Métropolis et il a fait irruption dans la salle de spectacle par l'arrière. Et là, il a tiré, il a tué un homme du nom de Denis Blanchette. Il a blessé un homme qui s'appelle Dave Courage très gravement. Il a traumatisé aussi plein de gens. Il y a des gens qui portent encore les séquelles de ce qui s'est passé ce soir-là. Et ces gens-là poursuivent présentement le gouvernement du Québec, la SQ, pour ce qui s'est passé ce soir-là. Et il faut le dire, c'était un attentat politique. Le gars détestait les souverainistes. Et c'était aussi une bourde colossal de la police provinciale, la Sûreté du Québec. Un corps de police qui protège des dignitaires avec compétence. La base, c'est de s'assurer que le lieu que vous protégez, le lieu où se trouve le, la, les dignitaires, est lui-même gardé. Et l'arrière du métropolis n'était pas gardé par des policiers armés. Et la SQ était responsable. Je sais là que la SQ et le SPVM se sont lancés, disons, la responsabilité là, de façon très polie à l'époque, mais n'en demeure pas moins que c'est la Sûreté du Québec qui est ultimement responsable de la protection et le périmètre n'était pas sécuritaire. Donc, on n'a jamais su non plus qui était responsable de quoi le 4 septembre. Qui a fait une gaffe le 4 septembre? Parce que au Québec, il y a une culture de l'opacité et du secret et ça a servi à protéger la SQ parce que la SQ a réussi à prétexter l'importance du secret opérationnel, des protocoles de sécurité pour éviter que la lumière soit faite. Il y a eu une enquête, mais disons, c'est pas très surprenant au Québec, mais l'enquête, on n'en a pas connu les conclusions. Et là, il y a ce procès civil dont je vous parle et il y a quatre personnes qui poursuivent. Et là, il y a des questions déplaisantes qui vont se poser sur la sécurité telle que vue par la Sûreté du Québec en général et en particulier au métropolis. Et la SQ demande présentement une sorte de huis clos pour éviter que ces protocoles de sécurité soient scrutés de façon publique. On va parler de tout ça avec Joël Arsenault. Il est chef parlementaire du Parti québécois. Monsieur Arsenault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Donc, le lieutenant Pierre Bertrand, qui est responsable de la protection des dignitaires de la Sûreté du Québec, a dit là, dans un débat juridique là, en marge du procès que les chefs de parti dans l'élection de 2022, l'automne prochain, vont être protégés pas mal comme ceux de l'élection de 2012. Comment vous avez réagi à ces propos-là?
Ben écoutez, on réagit avec surprise, avec étonnement. Puis je vous dirais qu'on est un peu choqués aussi de voir que c'est comme si on n'avait rien appris suite aux événements traumatisants, vous l'avez dit, là, du 4 septembre 2012. 10 ans plus tard, on dit on va appliquer exactement le plan de match. Il y a quelque chose de surréaliste là-dedans, de ne pas pouvoir tirer des leçons d'une bourde comme celle-là, parce qu'il faut le dire, le système il n'a pas fonctionné pour protéger la première ministre. Imaginez dans une éventuelle campagne électorale où il y a 5 partis, puis il y a des rassemblements, puis il y a une société qui est davantage polarisée qu'elle l'était en 2012. Que va-t-il se passer? Il faut rassurer les gens puis travailler d'une façon beaucoup plus transparente là, lorsqu'il est question de tirer des leçons d'un attentat politique comme celui-là.
Est-ce que ça vous dérange de ne jamais avoir su qui avait raté quel bateau le 4 septembre 2012?
Mais tout à fait. En fait, c'est là où je salue la démarche actuelle des victimes qui ont intenté la poursuite puis qui nous permettent de remettre le dossier à l'heure du jour, puis de se rendre compte peut-être qu'on a été un peu endormi depuis une dizaine d'années, là, mais de dire que finalement on a accepté le fait qu'une enquête avait été faite. On sait pas trop comment, on sait pas trop avec quelles conclusions. Et là, on apprend que il y avait pas vraiment eu de recommandations formelles pour le changement ou l'adaptation ou l'amélioration des pratiques, parce que finalement, on va procéder exactement avec le même mode opérationnel. Alors, je pense que c'est les retombées de la démarche des victimes aujourd'hui qui nous permettent de discuter de la situation, et c'est important qu'on le fasse.
Monsieur Arsenault, là, il y a ce procès civil, on le répète, et il y a un débat en marge du procès. La SQ et le procureur général veulent qu'il y ait des parties du procès qui se déroule à huis clos hein, pour protéger les protocoles de sécurité de la Sûreté du Québec en matière de protection des dignitaires, comme les élus. Est-ce que vous croyez à cet argument-là?
Ben, moi, je pense qu'il y a des façons de pouvoir protéger un certain nombre de règles opérationnelles dans la SQ, tout en étant, faisant preuve de transparence. Il y a déjà des procès qui se tiennent où on préserve l'identité des victimes. Il y a parfois des faits là aussi qu'on veut garder là à l'abri du public en général pour des raisons de sécurité. Mais de là à induire l'idée que on doit tout faire ça derrière des portes closes. Il y a une opacité, là, un degré d'opacité qui est inacceptable dans une société démocratique comme la nôtre.
Mais c'est très en phase avec l'opacité généralement au gouvernement, qu'importe les partis, M. Arsenault.
Oh oui, mais moi, l'idée, là, c'est pas de faire un plaidoyer sur le plan politique, mais plutôt sur l'État du Québec et la démocratie et la façon de faire confiance aussi, non seulement au système politique, mais au système de la justice, mais au système policier là, qui doit, évidemment, à un moment donné ou à un autre, rendre des comptes.
Vous l'avez mentionné, là, la polarisation au Québec est encore plus accentuée en 2022 qu'elle pouvait l'être en 2012. Comment ça teinte votre analyse sur la sécurité des élus, ça?
Mais vous savez que la violence sur les réseaux sociaux, par exemple, n'a jamais été aussi grande. Et puis, il y a des enquêtes qui commencent à s'instituer là, sur des propos haineux ou des menaces de mort. Donc, la ligne à tracer entre ce qui est dit derrière un écran puis ce qui pourrait être fait lorsque la tension monte dans la vraie vie, elle est assez mince et floue et difficile à justement tracer. Alors, moi, je pense qu'on a des raisons de penser que s'il y a eu, vous l'avez qualifié de désaccès, une personne comme Richard Henry Baines qui a pu passer à l'acte et de façon presque en toute impunité devant public avec sa robe de chambre, marcher sur la rue avec une arme, sans vraiment qu'on s'en occupe et rentrer dans le métropolis. Aujourd'hui, si on imaginait que quelqu'un décide de le faire, mais de façon beaucoup plus organisée, peut-être un peu irrationnelle, mais plus organisée, plus méthodique, quel genre de résultat ça pourrait donner? Moi, c'est ça qui me donne un peu froid dans le dos, là, pas sur le plan personnel, mais sur le plan de la protection des personnes qui s'impliquent pour le service public.
Monsieur Arsenault, merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prochaine. Joël Arsenault est député et chef parlementaire du Parti québécois. Juste avant d'aller à la pause, là, moi, je me rappelle d'avoir écrit là-dessus. Et je vous le dis, là, ce qui a évité un bain de sang encore plus vaste le 4 septembre 2012 au Métropolis, c'est un coup de chance. C'est que l'arme de Bain s'est enrayée. Sinon, l'incompétence de la Sûreté du Québec aurait entraîné un coup humain encore plus lourd. Puis là, je le sais que la SQ va dire que c'est pas fin, que c'est pas juste de dire qu'ils ont été incompétents sur ce coup-là. Si vous voulez pas qu'on dise ça, ben sortez le rapport d'enquête interne qui creusait la question. Puis à la lumière de ce qui est dans le rapport, peut-être que je changerai mon évaluation. Mais sur les faits, sur le fait que l'arrière du bâtiment n'était pas protégé par des policiers armés, m'excuse, il n'y a pas d'autre mot que incompétence. Et c'est la SQ qui protège nos élus, les chefs de parti, les ministres. Et moi, en 2012, après la tragédie, quelques jours après, là, j'avais parlé avec un ancien du Secret Service américain, hein, le service qui est chargé de la protection des présidents américains. Le monsieur s'appelle Dan Emmett et lui a protégé les deux présidents Bush, président Clinton. Il a écrit un livre sur la protection des présidents des États-Unis. Et lui, Emmett, m'avait dit, écoutez, il y a deux choses qui m'étonnent dans ce qui s'est passé au Métropolis. Un, que toutes les portes n'aient pas été gardées par des policiers armés. Il dit ça, c'est la base, c'est l'enfance de l'art. Et la deuxième affaire, il dit, il y a un coup de feu, puis là, il y a les policiers qui s'en vont vers la première ministre élue et qui l'entraînent tout de suite à l'écart. Il dit, après ça, on lui a permis de revenir sur la scène, alors qu'on ne savait pas exactement c'était quoi la menace. Il dit, tu la sors, tu la mets dans un lieu sûr, tu la sors du lieu et tu poses des questions après. Ce qu'il me disait, M. Emmett, un ancien du Secret Service, c'est, tu ne sais pas s'il y en a un autre coucou, tu ne sais pas ce qui se passe, pose des questions après. Mais la SQ, dans son incompétence, encore une fois, a permis à Mme Marois de retourner sur la scène. L'autre affaire, c'est que je fais le parallèle, là. Je parle souvent d'opacité à ce micro et ailleurs. Rappelez-vous, là, tout récemment, il y avait eu cette histoire d'avis éthique qui avait été donné sur le couvre-feu. C'était secret. Le gouvernement ne voulait pas qu'on sache c'était quoi l'avis qu'il avait eu à propos du couvre-feu. Le Québec a un grand, grand réflexe d'opacité. Et aux États-Unis, le Secret Service n'est pas parfait. Sous Obama, il y avait eu des failles de sécurité importantes, quelques incidents. Quelqu'un avait réussi à passer par de sa clôture de la Maison-Blanche, à rentrer dans la Maison-Blanche, à monter dans un escalier. Le président n'avait pas été mis en danger, mais ça avait été suffisamment inquiétant pour que la chef du Secret Service soit convoquée devant le Congrès américain, qu'elle ait à répondre. Il y a eu une enquête. L'enquête a été publique. Les conclusions ont été publiques. et elle a été congédiée. Elle a dû, je pense qu'elle avait démissionné avant d'être congédiée. Au Québec, le rapport est secret. Vous ne le saurez pas comment on a merdé. Vous ne le saurez pas comment on a failli notre mission de protéger la première ministre élue. Et le prétexte, c'est toujours le même. Le prétexte, c'est « Ah, faudrait pas qu'on donne une idée au coucou de comment déjouer nos protocoles de sécurité. » C'est un prétexte qui est très commode. Moi, c'est ça qui me bug. Parce que ce prétexte-là, ce que ça permet aussi de faire, ben, ça permet de montrer à quel point. Ça permet de cacher à quel point t'as failli à ta mission, à quel point la SQ a été incompétente. Et je vais terminer là-dessus. C'est très inquiétant de voir que 10 ans plus tard, la SQ va dans un procès et dit « Non, on va protéger en 2022 les dignitaires comme on les a protégés en 2012. » C'est consternant. Mais ça, quand tu ne fais pas la lumière sur les faits, ça permet à des organisations comme la Sûreté du Québec de dire et de faire n'importe quoi. Et juste en terminant, vous savez, il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup de conspirationnistes. Et moi, j'ai un souvenir. Il y a quelques mois, François Amalega, qui est un militant conspirationniste, qui s'est approché à quelques pieds de Christian Dubé dans une conférence de presse. La SQ, qui est chargée de protéger les ministres comme Christian Dubé, n'a pas été foutue d'intercepter ce gars-là. Ça vous donne une idée du peu de sérieux à la Sûreté du Québec sur la protection de nos élus. Salut Luc!
Salut Patrick!
Donc, il y a 4 traumatisés du Métropolis du 4 septembre 2012 là, qui ont assisté à l'attentat de Richard Henry Bain, qui poursuivent le gouvernement, la SQ. Qu'est-ce que ça te dit, tout ce procès-là?
Ben, ça me dit qu'ils ont été laissés pour compte. Hein. Il y a une de ces personnes-là qui a témoigné avoir commencé à prendre différentes prises de types de drogue. Arrêter son travail. Au moment où l'événement s'est produit, la personne qui a été tuée était pour lui un père spirituel. La personne qui avait fait rentrer dans le métier, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ses vêtements étaient tachés du sang de cette personne-là. Il s'en est jamais remis. Et une autre personne aussi qui a arrêté complètement de travailler. Et ils ont été traités avec assez de... pas de mépris, mais une forme d'indifférence. Alors, l'obligation de poursuivre. Mais surtout aussi, ce qui ressort de ça, c'est les interrogatoires qui ont été faits envers les policiers, envers le corps policier de la SQ, et la réponse qui a été donnée à l'effet qu'ils n'auront pas changé leur méthode après cet événement-là. Parce que ce que tout le monde dit, et notamment ces 4 personnes-là, c'est qu'il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de policier à l'arrière.
L'arrière du Métropolis était laissé complètement découvert. Bain a pu sortir de son char en robe de chambre avec son gun, marcher jusqu'à la porte arrière du Métropolis. Il n'a jamais été, d'une part, spoté, interpellé,
alors qu'il était bien
intercepté.
En robe de chambre.
Quel corps de police permet ça? Quand la future première ministre est à l'intérieur, voyons donc.
Bien, absolument. La porte était restée ouverte, semble-t-il, pour faire passer là, des câbles. On ne sait pas si c'est des câbles d'alimentation électrique ou vidéo.
Il n'aurait même pas dû pouvoir se parquer en arrière.
Bien, absolument. Donc, comment ça se fait? Et comment ça se fait que la... Bon, il y a une hypothèse qui pourrait expliquer la réponse biscornue, bizarre de la SQ. C'est comme il s'agit d'un procès civil pour poursuite, la SQ peut peut-être pas admettre, puisque si elle admet que ses méthodes ont été révisées depuis, ça veut dire qu'elles n'étaient pas bonnes. Et donc, peut-être que la SQ déclare qu'elles n'ont pas révisé les méthodes juste pour se protéger d'une poursuite civile. Mais il y a d'autres possibilités aussi. L'autre possibilité, ça serait que ce n'est pas une organisation apprenante. C'est-à-dire que ils sont pas capables de prendre note de ce qui s'est passé puis de dire, bon, OK, on va le travailler point par point. Ça s'inscrirait peut-être, c'est mon hypothèse, dans une culture de la paisibilité du Québec par rapport aux États-Unis.
Oui, je suis d'accord avec toi, parce que ici, ce genre de choses-là n'arrive pas. Il y a eu la crise d'octobre, on se comprend, mais il n'y a pas des menaces comme on en voit, par exemple, sur le président américain, français, etc. Mais Luc, juste à ramener, en 2012, il y a eu une enquête. L'enquête est restée secrète. Les conclusions sont restées opaques. Ça n'a jamais été communiqué au public. On ne sait pas ce que la SQ a fait tout croche là-dedans. On ne sait pas ce que la police de Montréal a fait tout croche là-dedans. Et 10 ans plus tard, Tu as un policier de la SQ responsable de la protection des dignitaires qui vient dire au juge, en disant qu'on veut le huis clos pour la portion sécurité du procès. Ben écoutez, en 2022, pour l'élection du mois d'octobre, nous, on va gérer ça comme en 2012.
Oui, c'est ça. Et écoute, évidemment, ça fait absolument aucun bon sens. Un des trucs qui fait pas de bon sens, c'est de dire on ne révélera pas les failles et les méthodes d'intervention parce qu'on voudrait pas que ça serve à d'éventuels terroristes ou à d'éventuels criminels.
C'est ridicule
puisque ça a été révélé de multiples fois par d'autres gouvernements. Par exemple, lorsqu'en juin 2021, Macron, qui par exemple est protégé par un corps policier, ça varie là, entre 70 et 95 personnes, ils ont fait une analyse détaillée, en ondes, des raisons pour lesquelles il a reçu une claque, comment ça se fait qu'il n'était pas entouré, comment ça se fait qu'il n'y avait pas des policiers au sein de la foule, devant lui, etc. Et tout ça est passé avec les vidéos, puis tu as des gens qui analysent puis qui critiquent. Alors, on le sait déjà comment, on sait comment les policiers s'organisent. Pareil, en Angleterre, il y a eu un député conservateur qui a été assassiné en octobre 2021. Alors, c'est pas vrai qu'ici, il y a des particularités qu'on devrait protéger, là. C'est pas vrai.
Mais moi, je pense que, d'une part, au gouvernement du Québec, en général, il y a une culture du secret, il y a une culture de l'opacité. C'est interdit de communiquer un document jusqu'à ce que ce soit autorisé. Ça, c'est un problème. Ça conforte des organisations dans leur médiocrité. Si tu ne sais pas ce qui se passe, tu croches, si tu n'as pas les données, tu ne sauras pas comment le corriger et surtout, tu ne seras pas blâmé pour ça. Puis, dans le cas de la SQ, oui, on va prétexter le besoin absolu de protéger tout ce qu'on fait pour ne pas donner d'idées à des terroristes. Oui, parfait. Et en même temps, ça permet de te protéger les fesses. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as fait de tout croche. Et tu as fait quelque chose de tout croche pour que Bain puisse rentrer dans le métropolis comme on rentre dans un moulin.
Exactement. Parce que de dire que, par exemple, il faudrait protéger le périmètre complet, y compris l'arrière, que toutes les entrées soient protégées par un garde armé, veux-tu même dire en quoi ça pourrait aider un terroriste?
Luc, il y a quelqu'un qui m'écrit dans la messagerie, puis je le mentionne parce que c'est un argument qui est souvent soulevé. Okay? Quelqu'un m'écrit, le problème à propos du Métropolis 4 septembre 2012, c'est que c'est le territoire du SPVM. La SQ s'occupait seulement de la sécurité rapprochée. Moi, j'achète pas cet argument-là. La SQ est responsable de la sécurité des chefs de parti, ce soir-là, de la première ministre élue. Si tu regardes, toi, tu étais à la SQ, puis tu regardes, il n'y a pas de policiers en arrière, pourquoi est-ce que tu permets à la première ministre de monter sa scène? Pourquoi tu y permets de monter sur une scène, dans un endroit qui n'est pas sécurisé?
Absolument. Là, justement, Patrick, deux éléments importants quand on fait des comparaisons avec les autres États. Premier élément, le SPVM et la SQ peuvent se parler. Ils peuvent dire, OK, moi, je suis responsable de la sécurité rapprochée, mais je vous donne l'ordre, vous, de vous occuper du périmètre. Et puis, il peut avoir un rapport hiérarchique. Nous sommes responsables de la sécurité de la première ministre, donc vous êtes obligés, vous nous écoutez. Il y a un rapport hiérarchique qui est établi pour un événement comme celui-là. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas une chasse gardée, là. Il n'y a pas une chasse gardée à la SQ qui dirait, nous autres, on ne s'occupe que d'elle, puis on ne répond à aucune question. Voyons donc, aux États-Unis, la première ministre ou le président ne décide pas de ses comportements. C'est le corps policier qui, dans ce cas-là, c'est Secret Service qui décide où et quand et comment le président va se comporter. Il est partie du système de sécurité.
Luc, je vais te donner un exemple. Okay? En 2012, là, quelques jours après, j'avais approché un ancien agent du Secret Service, Dan Emmett, là, qui avait travaillé pour les deux Bush, il avait travaillé pour Clinton, et il avait écrit un livre sur la protection des présidents. Puis lui, il m'avait un peu décortiqué là, ce qui s'était passé au Métropolis. Et une des choses qui l'avait frappé, c'est quand les agents de la SQ se précipitent sur Mme Marois pour la tirer de la scène, parce qu'il y a une menace, hein, on a entendu des bruits, là. On voit Mme Marois qui fait le saut, et là, les policiers arrivent. Lui, ce qu'il m'a dit, puis tu sais, sa seule expertise, c'est de protéger le président des États-Unis, fait que tu comprends, là.
Elle doit être pointue,
aux yeux de la SQ, ça doit pas être important. Lui, il dit, dans un cas comme ça, regarde, il dit, tu sors le dignitaire, la dignitaire, ta main en sûreté et elle revient pas sur la scène. On va poser des questions plus tard. Tu sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est armé. Tu sais pas si le gars qui vient de tirer est parti d'un commando. tu protèges la personne, tu t'en vas. Lui, il dit, comment ça se fait qu'on lui a permis de revenir? La version de la SQ, c'est, ben, Mme Marois voulait y aller. Ce que Emmett m'a dit, l'ancien du Secret Service à l'époque, c'est pas sa décision. Il dit, voilà. quand Cheney a été protégé le 11 septembre, il dit, les agents l'ont pris. Puis ses pieds touchaient plus à terre.
Puis Dieu sait qu'il n'est pas léger. Mais ce que je vois là, à la lecture des différents documents, c'est que c'est une culture de la protection qui est extrêmement poussée, qui est aiguë, alors que dans les pays scandinaves, en Angleterre, ici, il semble y avoir une marge de manœuvre qui est laissée au premier ministre. Et donc, les policiers suivent. Mais ça ne change rien, ça. Ils suivent, mais justement, leur vigilance devrait être encore plus forte et encore plus développé. Cette idée-là de dire, ben, on n'avait pas le choix, on l'a suivi, c'est pas nous qui décidons, voyons donc. Je pense qu'ils ont fait preuve de manque de professionnalisme, et tu as tout à fait raison de dire qu'ils tentent de le cacher.
Si tu n'as pas une enquête publique, si les conclusions du rapport ne sont pas publiques, personne n'est à blâmer. C'est voilà. Fantastique. Ni la SQ, ni le procureur général, ni le gouvernement, ni la SQ, tout est fantastique. Mais Luc, en terminant, puis j'espère me tromper. J'insiste là-dessus, j'espère me tromper. Mais je regarde la sécurité des ministres fédéraux, je regarde la sécurité des ministres provinciaux. Un jour, il y a quelque chose qui va arriver. C'est tellement facile de les approcher, je te garantis. Écoute, à Malaga, là, le conspirationniste a approché Christian Dubé dans une conférence de presse comme si moi je rentrais à la pharmacie. L'été passé.
Incroyable. Et Justin Trudeau a reçu des cailloux dans un événement en Ontario, dans un rassemblement en Ontario.
Mais le PM est mieux protégé. Mais les ministres fédéraux, j'en dirai pas plus, je veux pas donner d'idée à personne, mais je te dis, ça va prendre une tragédie pour que tout le monde réalise qu'on vit pas dans un monde de licorne.
Espérons qu'elle aura pas lieu.
Hey, bonne fin de semaine.
Bonne fin de semaine à toi.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Martin Carly, docteur en sciences neurologiques et co-animateur de la géniale émission Géniale à Télé-Québec, grand vulgarisateur scientifique, est avec nous. Salut Martin.
Salut Pat.
On va parler de toilettes parce qu'il y a une nouvelle qui nous provient de la ville de Lyon en France. Un système de toilettes écolo qui prend pas, prennent pas d'eau, etc., qui sont répartis un peu partout dans la ville. Et ça a l'air cocasse comme ça, mais l'accès aux toilettes plus largement, c'est chose de pas évident dans certaines parties du monde.
Non, vraiment pas. Et quand je discutais un peu plus tôt aujourd'hui avec François Arnois de l'équipe de ce sujet-là, je dis, mais il y a moyen d'étendre ça à justement, c'est quoi cet accès-là aux toilettes pour l'humanité? Puis nous, ben, on prend ça pas mal pour acquis, mais il y a des parties du monde où c'est pas du tout acquis l'accès aux toilettes, bien entendu. Mais la nouvelle de départ, donc, c'était ce projet pilote à Lyon d'installer 16 installations sanitaires, 7 réservées exclusivement aux femmes. Il y en a 2 qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, pardon, dans des endroits qui en sont dépourvus dans la ville de Lyon. Et tu l'as mentionné, ce sont des installations qui sont écologiques, donc on n'utilise pas d'eau dans ces installations-là. Elles sont entretenues par des agents à vélo, donc on sauve aussi là-dessus au niveau du carburant, bien entendu. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la ville de Lyon avait 3 objectifs. Le premier, c'était d'améliorer la salubrité publique parce que quand il n'y a pas d'installation, puis on va en parler, là, la pandémie a fait des ravages de ce côté-là, ben il arrive quoi? Ben il arrive que des gens se soulagent comme ça un peu où ils peuvent, bien entendu. Donc, premier objectif. Le deuxième objectif, c'était aussi un objectif d'inclusivité et d'offrir notamment aux femmes des options autres que d'acheter un paquet de gomme dans un café, finalement.
Pour aller utiliser les toilettes.
Bien entendu, effectivement. Et le troisième élément que je trouvais particulièrement intéressant, c'est la valorisation de l'urine humaine à des fins agricoles. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant.
Attends une seconde. La valorisation de l'urine humaine à des fins agricoles.
Oui, absolument. Pourquoi? Parce que dans l'urine humaine, ben on a des éléments chimiques qui sont indispensables aux plantes. J'ai nommé l'azote, le phosphore et le potassium. Et ben nous, on tire ça dans des molécules complexes dans notre alimentation. Puis les plantes ont besoin de formes plus simples qui incorporent ces éléments chimiques-là. Ben on fait une partie du travail pour les plantes avec notre digestion, avec notre métabolisme. Donc lorsqu'on relâche ces les composés qui ont de l'azote, du potassium, du phosphore comme ça dans notre urine, ben là les plantes sont déjà pas mal capables de l'utiliser, mais ici on parle quand même d'une transformation chimique là pour pouvoir utiliser ça comme fertilisant. Et ça, c'est très intéressant.
Mais ça vient de cette toilette écologique?
Oui, oui, absolument.
On va servir de l'urine pour faire pousser des légumes.
Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait quand même depuis un certain temps. Il y a plusieurs avantages à utiliser l'urine humaine comme fertilisant. Premièrement, ben, l'urine, au contraire des selles, donc lorsqu'on parle du fumier, ben, l'urine, ça sort presque stérile lorsqu'on se soulage, bien entendu.
Attends, qu'est-ce que tu veux dire par stérile?
Ben, stérile, c'est-à-dire qu'il y a il y a peu de risques de contamination microbienne avec l'urine. Donc ça, c'est un gros avantage.
Tandis qu'avec le CA,
c'est ça. Si on devait gérer des selles humaines puis se rendre au bout pour transformer ça en fumier, on aurait des enjeux là, de santé reliés avec ça. Ça, c'est bien entendu un point. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit déjà, par exemple, même dans la Station spatiale internationale, que si on traite l'urine des astronautes, on est capable de leur donner de l'eau, finalement. Donc on doit optimiser, par exemple, dans l'espace... l'urine. On dirait que je te révèle plein d'affaires. Pardon. Je te jure qu'il n'y a pas de poisson d'avril dans rien de ce que je te dis. Là,
juste pour être clair, oui. Je ne suis pas très familier avec, disons, la façon dont la Station spatiale internationale fonctionne là, dans ses moindres détails.
Oui.
Ce que tu me dis, c'est que ce que les astronautes boivent, c'est ce qu'ils...
Ben, notamment, pas seulement, mais notamment, parce que, tu sais, si tu fais des missions spatiales habitées, ben, je veux dire, chaque gramme à bord de la station ou de la fusée ou peu importe.
C'est dur de monter un château d'eau là-bas.
Ben, on s'entend. Il y a pas, tu sais, brancher le boyau sur la fusée qui monte, c'est pas trop évident, on s'entend. Donc, ça prend des techniques, là, justement, pour être capable de réutiliser tous les liquides qui sont générés à bord de la station. Donc, des systèmes de purification extrêmement sophistiqués. On extrait, donc, toutes les molécules qui sont nocives pour notre santé, puis on garde le côté eau de la chose.
L'expression, le dicton, rien ne se perd, rien ne se crée, c'est vraiment fondé dans l'espace.
Exactement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les humains, on en fait pas mal d'urine. On parle en moyenne de 500 litres d'urine par humain par année.
500 litres?
500 litres, c'est de quoi remplir 3 bains de taille standard. Donc, imaginez si on était capable de revaloriser ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que... si on pouvait revaloriser ça, ben on diminuerait beaucoup les coûts énergétiques du traitement des eaux. Le problème de ça, et c'est ça le problème qui limite l'utilisation à grande échelle de l'urine humaine comme fertilisant, c'est que ça prendrait de la plomberie, ça prendrait des installations qui sont dédiées à ça, donc qui sont séparées. Toi, dans ta toilette, que si tu fais un pipi, c'est d'un bord, si tu fais un caca, c'est de l'autre bord, et ainsi de suite. Je veux dire, faut tout revoir nos installations sanitaires pour être capable de faire quelque chose comme ça. Donc, c'est pas demain la veille.
Tu sais, déjà, c'est un peu absurde qu'on fait un petit pipi puis qu'on flushe la toilette. On envoie de l'eau que le calvin, c'est juste pour un petit pipi de rien. Là.
Exactement. Donc, on imagine l'impact écologique de recycler ça, de l'utiliser comme fertilisant, parce que aussi, ben, ça a un coût là, de fabriquer tous ces fertilisants-là qu'on utilise dans les champs et ainsi de suite. Et en plus, ben, on diminue l'énergie nécessaire pour traiter ces eaux-là. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, c'est pas farfelu d'utiliser de l'urine comme fertilisant.
Et plus globalement, tu sais, quand j'ai vu cette nouvelle en direct de Lyon, ce que je me suis dit, c'est, tu sais, quand t'as pas de domicile fixe ou quand t'es un touriste, où tu vas au petit coin? Tu sais, tu parlais de, t'es une femme, tu vas chercher un paquet de gomme au café en France.
Ouais.
Moi, je suis allé en France une couple de fois. Combien de fois? Était acheté un espresso juste pour le privilège d'aller au petit coin?
Ben, exact. Et non seulement ça. Mais ça fait 2 ans qu'on est en pandémie, Patrick. Oui, là. Oui. Donc, ces restaurants-là sont fermés, ces cafés-là sont fermés. Et ça a eu un impact énorme. Une étude qui a été faite en France montre que près de la moitié de la population a eu des problèmes pendant la pandémie à avoir accès à des toilettes. Et là, évidemment, on parle de gens de catégorie de la population qui en souffrent plus. Par exemple, les sans-abri. On imagine immédiatement les sans-abri. Mm-hmm. Les enfants qui n'ont pas nécessairement la possibilité là, de se retenir, même si on leur dit. Hein, c'est pas... c'est pas obligé. Les personnes âgées, les femmes enceintes qui vont devoir aller à la toilette plus souvent, des personnes qui ont des maladies chroniques, là, si t'as des problèmes intestinaux et que tu dois même planifier
dans une
tes déplacements,
faut que tu sois à la toilette,
ben, on s'entend, si t'as pas accès à rien de ça, c'est un problème. Chauffeurs de taxi, les livreurs et ainsi de suite. Donc, il y a toute une partie de la population qui souffre du fait qu'en pandémie, il n'y a pas accès à des toilettes. Mais sais-tu quoi? Il y a des gens sur la planète là, pour qui c'est même pas une possibilité d'avoir accès à des toilettes. On estime, selon l'ONU, que 3,6 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à des toilettes appropriées.
Ce qui cause des... causer des maladies graves,
plein,
comme
les
le choléra.
Épidémies, ben oui. choléra, des parasites intestinaux, bien entendu. Mmh. Il y a 673 millions d'humains sur la Terre qui n'ont pas de toilettes du tout. On parle même pas d'approprié ou pas, là. Pas de toilettes pantoute. Et le résultat de ça, c'est que 700 enfants meurent chaque jour de diarrhée reliée à des problèmes liés aux installations sanitaires. Ouais.
Et on a vu au début de la pandémie, tu sais, bon, on est un pays industrialisé, tu sais, le papier de toilette.
Ben oui.
Mais la vaste majorité des pays du monde, ça existe
non,
pas.
Non, vraiment pas. Et on en est même à... c'est ça qui est intéressant. Je parlais de ça à François un peu plus tôt. Les Nations Unies ont décrété le 19 novembre comme étant le World Toilet Day. Ça a l'air totalement absurde, mais essentiellement, c'est une journée dédiée à sensibiliser la population à l'importance d'avoir des installations sanitaires correctes. Et l'objectif des Nations Unies, c'est que tous les humains de la Terre aient accès à des toilettes correctes d'ici 2030. T'sais, donc, c'est quand même...
À 10 milliards d'êtres humains, là, c'est là qu'on s'en va, là, selon les prédictions. Avez-vous pensé, là... À 500 litres de pipi par année?
Oui.
Fois le nombre de caca? Ben, tu sais qu'on va mettre tout ça?
Ben, c'est vrai, mais il y a un gros mais là-dedans qui est particulièrement intéressant. C'est que les études démontrent que pour 1 $ investi dans des installations sanitaires, c'est 5 $ de sauvé en frais médicaux et en productivité. Ah, oui. Et là, il y a énormément d'enjeux. Par exemple, tu sais, des pays où il n'y a pas de toilettes, par exemple, ben, les filles sont obligées de rester à la maison quand elles ont leur menstruation parce qu'elles sont pas capables d'aller à la toilette et donc de pouvoir poursuivre leur journée normalement. Ça a un impact sur leur possibilité d'être éduqué, sur leur possibilité d'aller au travail. Si tu n'as pas de toilette au travail, par exemple, tu fais quoi?
Et
quand
sur l'économie?
L'économie en général. Tout ce traitement des eaux-là, ça, évidemment, ça fournit des emplois, et ainsi de suite. C'est vraiment un enjeu qu'on n'imagine même pas, nous, dans notre cocon à nous, mais qui est vraiment majeur à l'échelle de la planète.
Toujours un plaisir, même quand on parle de pays, de CACA. Merci beaucoup, Martin Carlier.
C'est un plaisir.
On va parler avec Maude Goyer, journaliste et maman 24/7, avec mon ami de C'est quoi le FODA, le FODA. Salut Maude.
Salut Pat.
FODA, c'est quoi ça?
FODA, c'est la nouvelle affaire. Écoute, FODA, c'est l'acronyme pour Fear of Dating Again. Donc, c'est le fait que les gens sont plus réticents, Pat, à l'idée de fréquenter d'autres personnes dans un but romantique, sexuel ou amical. Donc, il y a une peur ou une crainte qui s'est installée à cause de la pandémie. Et la première fois que ça a été nommé, ça, c'est en janvier 2021. Donc, c'est assez récent par Logan Murray, qui est la directrice chez Inge, qui est une application de rencontre américaine. Ils ont fait un sondage et se sont rendus compte que 51% des utilisateurs avaient déclaré qu'ils étaient atteints de FODA. Et moi, j'ai vérifié ça. Je me suis dit, tiens, je vais mettre sur mes réseaux sociaux pour voir. J'ai 200 répondants, puis c'est pile 50-50. Et ma question était, êtes-vous atteint de FODA, même dans vos relations sociales amicales? Avez-vous des craintes liées aux rencontres en vrai dans les espaces publics? Et c'est 50-50. Donc, les gens sont réticents. Je sais pas si c'est la sixième vague ou quoi, mais il se passe quelque chose.
Mais est-ce qu'on sait si avant, les gens étaient réticents comme ça?
Ben, en fait, les gens étaient moins... Mais le milieu du dating, c'est un milieu brutal, comme dit mon amie Mélanie, qui est sur plusieurs applications. Elle dit, c'est pas pour les mauviettes, Maude. C'est agressif, c'est brutal, c'est violent.
Mais attends, wow. Brutal et violent, de quelle façon?
Ben les gens ghostent vite, les remarques, les photos, écoute, c'est vraiment intense. Et c'était déjà comme ça avant la pandémie, mais là, c'est encore pire parce que les gens n'ont plus de temps à perdre. Mais en même temps, ça, c'est un bon côté du FODA. C'est qu'il y a un petit côté, comme dit mon ami Geneviève, cut the crap. Donc, on arrête le niaisage. On annonce nos couleurs plus clairement, plus rapidement. Il y a plus de franchise. Ça, c'est une des bonnes choses. On annonce aussi son statut vaccinal. c'est devenu un filtre. Alors, tu peux, il y a une augmentation de 1500% dans une application de réseautage qui s'appelle OkCupid, de l'utilisation de « je suis vacciné ». Tout le monde l'a dit, on annonce nos couleurs. Ou pas, exactement. Puis là, ben, faut que tu mettes tes limites. Est-ce que toi, ça te tente de rencontrer quelqu'un qui n'est pas vacciné? Tu sais, jusqu'où tu vas? Donc, les gens annoncent tout de suite qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Fait qu'il y a une question là-dedans qui est bonne, c'est-à-dire qu'on demande, donc on va de l'avant, donc on revient pour, à la notion du consentement aussi, ce qui n'est pas de mauvaise chose. On remet ça un peu sur la table.
Mais quand tu as dit tantôt que c'était brutal et violent, là, c'est parce que c'est un peu comme un magasin numérique, là, le marché de du dating.
Ben, c'est que ça swap vite. Ça, les gens décident, prennent des décisions très rapidement, puis peuvent ghoster, engager une conversation avec quelqu'un, puis finalement, la personne se retire, puis t'as pas de nouvelles. Oui. Le ghosting est très, très fréquent. Fait que ça peut être difficile pour l'estime de soi. C'est très axé sur l'image corporelle aussi. Et on le sait, ça aussi, le FODAR, c'est en lien avec ça, la peur d'aller voir des gens, de rencontrer des gens. C'est que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens, bon, on est habillé en mou, on a bu du vin, oui. On a mangé, on a binge-watché des séries. Ben, ça fait que l'image corporelle, il y a beaucoup de gens qui disent, ben moi, j'ai pris un peu de poids, je suis moins actif, je suis moins à l'aise. Il y en a qui vivent bien avec ça, mais de là, d'aller rencontrer des gens, de se mettre out there, de vraiment se présenter, c'est plus difficile.
Madame Beauchamp a quelque chose à ajouter.
Non, mais je voulais juste dire à quel point ça devient futile aussi, parce que moi, j'ai soupé avec une de mes cousines qui était sur Tinder, et à un moment donné, elle me montrait comment l'application fonctionnait, fait que je dois avoir swipé à peu près 30 gars qu'elle a même pas vu. T'sais? Fait que moi, je jouais avec son application, pis genre, lui, il est lui, ça marche pas. Fait que ça devient...
Fait que t'es superficiel.
Ben non, mais je comprends à quel point les gens peuvent avoir peur, puis que ça devient un peu n'importe quoi. Là.
Mais en tout cas, heureuse, merci de nous avoir parlé du FODA, le Fear of Dating Again, la peur de recommencer à rencontrer, Maude. Mais toi, ça te concernait pas parce que t'es en couple, les Bob est un homme heureux.
Bob est un homme heureux, exactement.
Bye, Maude, on se reparle la semaine prochaine.
Hey, salut, ciao.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.